Béatrice Leroy, professeure honoraire à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, était l'invitée de l'Université du Temps Libre de Bayonne le 2 octobre dernier pour y présenter une conférence intitulée « La Navarre au Moyen-Âge, un royaume au cœur des voies internationales ». Nous écoutons Béatrice Leroy pour cette deuxième et dernière partie de conférence enregistrée au Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne.
En 1274, Henri dit le Gros meurt laissant une fille qui n'a que 2 ans, Jeanne. Il avait épousé Blanche d'Artois. Il en a eu donc Jeanne, d'abord un petit Thibaut qui est mort accidentellement, et puis Jeanne. Et Jeanne est à la tête donc de ce royaume alors qu'elle n'a que 2 ans, avec sa mère la reine Douairière, qui est une excellente régente. Toutes les femmes d'ailleurs dans les gouvernements navarrais sont ou régentes ou reines associées, et en général elles réussissent parfaitement. L'intelligence politique est tout à fait féminine dans ce royaume de Navarre. Et c'est ainsi que en 1274, les quartiers de Pampelune sont affrontés pour ou contre des privilèges. Le quartier avec le gouverneur de Navarre, Pedro Sanchez de Montagut, qui est d'une grande noblesse du sud de la Navarre, voudrait bien donner la Navarre aux Aragonais. La famille des Alférez, qui sont les Bastanes et les Almoravides, voudrait bien donner la Navarre aux Castillans, puisqu'il y a cet enfant de 2 ans, qu'est-ce qu'on va en faire, et même la reine Douairière. Et sur ce, les Castillans, qui ont bien envie de croquer la Navarre, assiègent la ville de Viana. La reine Blanche et la reine Jeanne se sauvent à la cour de France. Ce sont des dames françaises autant que navarraises. Elles vont à la cour de France, où le roi, en 1274-1275, est Philippe III le Hardi, le fils de Saint-Louis, qui est mort en 1270. Philippe III le Hardi, elles sont très proches parentes de ce roi, et surtout le roi est le gestionnaire du comté de Champagne, qui vient de tomber en déshérence puisque Henri est mort, donc l'homme Henri, le comte de Champagne, est mort, si bien que le roi de France porte le titre de baillistre, c'est-à-dire administrateur pour une vassale qui en aura l'héritage et qui sera cette petite Jeanne. Et étant donné qu'il est le baillistre de ce comté de Champagne, il se trouve également, par la force des choses, par l'habitude, le baillistre de ce royaume de Navarre. Il y envoie des gouverneurs qui sont des Français. Jusque-là, les rois de Champagne avaient nommé tantôt des amis champenois, tantôt des Navarrais pour être gouverneurs. Lorsqu'ils étaient à l'extérieur, ils nommaient un gouverneur, donc tantôt l'un, tantôt l'autre. Là, systématiquement désormais, Philippe III le Hardi. Et surtout, il fiance et il marie les enfants. Son fils Philippe, qui va devenir Philippe IV le Bel. Vous devez tous connaître Philippe IV le Bel parce que vous êtes tous pendus à la lecture des Rois maudits et que vous l'avez vu à la télé, bien sûr. Donc Philippe IV le Bel, qui épouse l'héritière par excellence du comté de Champagne, qui est en France, qui est un comté français, et du royaume de Navarre. Philippe IV, grâce à sa femme, et il le dit dans un texte officiel, il dit textuellement dans un texte postérieur, « Je suis étranger à la Navarre où je suis roi par ma femme. » Et quand j'aurai le temps, je viendrai donc en Navarre reconnaître mon royaume. Dès que mon fils héritier en aura l'âge, il sera l'héritier de la Navarre et du reste, c'est-à-dire la France. Et Philippe IV est le premier à prendre le titre de roi de France et de Navarre. Et après Philippe IV, mais d'abord sous sa direction, son jeune fils Louis, car les Navarrais protestent, les Navarrais vont à Paris. Les Navarrais envoient des nobles et des ecclésiastiques de grande envergure, l'évêque de Pampelune, maîtres en théologie qui viennent en général des couvents dominicains ou franciscains que Thibaut II avait fondés en Navarre, car il était lui-même gendre de Saint-Louis et très proche de la spiritualité de Saint-Louis qui avait favorisé à peu près partout les ordres mendiants, donc est très proche de la spiritualité franciscaine et dominicaine. Donc on les envoie à Paris réclamer auprès du roi de France. Vous êtes les rois naturels, mais on veut vous voir, on veut vous connaître. On a des gouverneurs qui font des choses parfaites. La Navarre est très bien gérée, comme une sénéchaussée française, très bien, comme si elle avait un sénéchal à sa tête, aux ordres de Paris, changeant très souvent, reconstruisant les murs, fortifiant les frontières. On a perdu les provinces vascongannes, alors on s'entend avec Bayonne, parce qu'il faut quand même un front de mer, ou tout au moins un débouché maritime, une vie internationale parfaite, mais gérée depuis Paris. Les Navarrais aimeraient bien avoir leur roi chez eux. Philippe le Bel a envoyé 3 mois son fils Louis pour être représenté en Navarre. Et Louis le Hutin y est allé dès la mort de sa mère de 1305. Enfin, il y est allé en 1307, puisque Jeanne, la reine naturelle, est morte en 1305. Louis y est allé 3 mois, de octobre à décembre 1307. Oui, mais il s'est fait couronner et sacré, car Thibaud II, gendre de Saint-Louis, je répète, très formé par les coutumes françaises, a introduit dans la couronne, dans la cérémonie du couronnement des rois de Navarre, un sacre, ce qui est tout à fait extraordinaire en péninsule ibérique. Il y a un sacre en Aragon, mais qui se déroule de façon différente, avec un envoyé du pape. Il n'y a pas de sacre en Castille, pas de sacre au Portugal, un sacre donc qui est célébré au moment de la cérémonie du couronnement, car Thibaud II est très très influencé par les coutumes de Saint-Louis et les coutumes de France en général. Au moment du déroulement de la messe, donc après cette cérémonie de la prestation de serment, de l'élévation sur le pavois, du couronnement cette fois-ci par l'évêque, ceci au moment de l'offertoire, fait revertir une dalmatique échancrée, donc un peu comme pour le sacre du roi de France au roi de Navarre, et lui donne des onctions sur la poitrine et dans les mains. Pas sur la tête, là ça c'est le roi de France, ni ailleurs, c'est donc un sacre, avec le Saint-Crème, de tout le monde je dirais, mais qui a évidemment toute la valeur du Saint-Crème, voilà, et un sacre du roi de Navarre. Donc Louis le Hutin est sacré en 1307, puis repart vite à Paris, de toute façon il est roi à la suite de son père, roi de France et de Navarre, 1314-1316, puis son frère Philippe, car il n'a eu qu'une fille, Jeanne, que l'on met à l'abri en Bourgogne. Donc son frère Philippe Philippe V le Long prend le titre de roi de France et de Navarre et continue à gérer par gouverneur interposé. Et enfin Charles IV, roi de France et de Navarre, qui suit la même politique ainsi. Au passage, sur une idée de peut-être de Louis le Hutin, mais certainement de Philippe le Bel, les rois ont fondé des bastides en Navarre, et en particulier comme cela se fait en Aquitaine et dans les régions françaises. L'Espagne ne connaît pas jusqu'alors les bastides. L'Espagne a beaucoup de villes neuves et de sauveté. Salvatierra, la Villanueva, on en a beaucoup dans le nord de l'Espagne, oui. Mais la bastide, qui est une fixation de population, en leur donnant l'ordre en quelque sorte, étant donné qu'on les a installés avec des privilèges et qu'on leur a donné une terre à cultiver, leur demandant de garder les murs, leur demandant de se défendre, leur demandant de s'autogérer sous supervision évidemment des officiers français, c'est absolument aquitain, languedocien, aquitain donc, et bastide française. Et c'est ainsi que en 1312 est fondée la bastide Clérance, qui garde la frontière du nord. Sur le cours de la Joyeuse, qui est un petit cours d'eau aujourd'hui tout à fait charmant mais tout à fait inutile, mais qui était alors un cours d'eau beaucoup plus important, qui rejoint l'Adour à Urte en prenant le titre de Haran au passage, et c'est ainsi que la bastide Clérance pouvait être un débouché vers l'Adour et vers Bayonne. Vous voyez donc une bastide fortifié militairement, mais évidemment de finalité économique tout à fait évidente. Et puis des bastides qui sont également fondées, mais qui se développent surtout dans les années 1350, dans le Val d'Araquil, qui est en frontière du Guipuscoa, qui est alors à la Castille, passé à la Castille depuis 1205, et qui est un nid de bandits de grand chemin qui n'arrête pas de descendre dans les terres navarraises, de radier les terres navarraises, de tuer les nobles et les paysans et de repartir dans le Guipuscoa. Il faut absolument lutter contre cette province qui est castillane de gouvernement, mais qui donc est tout à fait insupportable dans ces moments-là, ainsi que l'Alava qui suit à peu près le même modèle. Les rois de France et de Navarre se succèdent donc avec ces innovations, avec ces gouvernements. Charles IV le Bel meurt en 1328. Sa femme était enceinte. Il fallait attendre sa délivrance. Le roi est mort en février. Le 1er avril 1328, sa femme, qui était Jeanne d'Évreux, qui était une princesse donc de la famille des comtes d'Évreux, met au monde une fille blanche, voilà, qui n'aura donc pas le trône ni de France ni de Navarre, car la France ne veut pas reconnaître les femmes à la tête du gouvernement royal en France. Elle aurait pu avoir la Navarre, mais il y avait des filles aînées, des filles de Philippe V, et surtout l'aînée de toutes les petites filles de Jeanne de Champagne, qui avait épousé Philippe d'Évreux, le frère de Jeanne d'Évreux, qui était la femme veuve désormais de Charles IV le Bel, Philippe d'Évreux, comte d'Évreux, qui donc est depuis une dizaine d'années l'époux de cette petite fille de Jeanne de Champagne et Navarre, et qui est à la tête de toutes ces filles, qui peut revendiquer l'héritage de la Navarre. La Navarre se ferme à toute influence pendant un an, de 1328 à 1329, car les Navarrais envoient des lettres en latin à Paris, car les Navarrais ne savent pas écrire le français d'Oyle, ou tout au moins ils l'ont oublié, et puis de toute façon le langage diplomatique est le latin. Donc envoient des lettres en latin à Paris en disant qu'ils veulent reconnaître Jeanne leur reine naturelle, c'est elle qui doit être leur reine, mais on veut la voir avec son mari qui, par elle, sera roi de Navarre. Il faut qu'il vienne en Navarre. Philippe, très intelligent, et Jeanne, tout aussi intelligente et peut-être même encore plus, envoie en Navarre un très grand officier du royaume de France, le bouteiller de France, qui est Henri de Sully, seigneur de Sully, qui est dans le Val de Loire, qui est le bouteiller de France, c'est un peu l'intendant général de la cour de France, très important, très grand rôle économique et politique. Donc Philippe, Henri de Sully, et Philippe de Melun, qui est alors archidiacre de Reims et qui va très vite se trouver archevêque de Sens, donc un très grand ecclésiastique du bassin parisien. Tous deux vont en Navarre, envoyés par Philippe et Jeanne, pendant cette année 1328-1329. Ils étudient le fuero général, ils font faire des traductions en français et en latin, car il était rédigé en navarrais, qui s'est fixé alors et qui est le castillan, pratiquement le castillan, avec quelques nuances. Il rencontre tous les nobles navarrais, il se renseigne et ils envoient par courrier continu tous les renseignements et en particulier les textes fondamentaux à Philippe et Jeanne. Les navarrais l'exigeant, les navarrais tenant des cortès sans convocation royale, c'est-à-dire des assemblées représentatives qui ne doivent se réunir que si le roi l'exige, donc reconnaissent Philippe et Jeanne, mais exigent la venue en Navarre. Philippe et Jeanne comprennent très bien et au printemps de 1329 font le voyage, vont à Pampelune, se font couronner et sacrer. très vite se renseignent, restent sur place quelques années, puis repartent en France, puis reviennent. Ils n'ont pas arrêté ainsi un mouvement pendulaire donc de résidence en France et de résidence en Navarre, car ils sont comtes d'Évreux, comtes de Mortain, comtes de Longueville, donc des possessions dans toute la Normandie, surtout dans le comté d'Évreux, mais également un peu partout dans l'ensemble de la Normandie, il faut qu'il le gère. Et Philippe d'Évreux fait partie du grand conseil de Philippe VI de Valois, qui a été nommé par les Français, par le grand conseil de France, à la tête du royaume de France, bien sûr, le premier cousin des derniers Capétiens. Donc, c'est une ère nouvelle pour le gouvernement de la Navarre, la dynastie d'Évreux. La dynastie d'Évreux, qui a donc les excellents Philippe et Jeanne, qui marquent véritablement leur venue sur place lorsqu'ils viennent, qui reprennent tous les textes fondamentaux, font réécrire et remettre à jour les fueros, le fuero général et les fueros des villes et des villages, qui se font prêter hommage par les nobles de Navarre, mais qui y glissent des coutumes ibériques que ne connaissaient absolument pas dans le bassin parisien et en Normandie les rois de Navarre, que l'on appelle les conveniencias, qui lient en collaboration toujours cette idée en Navarre, le seigneur roi et le vassal noble, mon château, je le tiens en fief de vous le roi, je vous le prêterai si vous m'avertissez 20 jours à l'avance pour votre équipée militaire, s'il y a la moindre pierre de démolie, c'est vous qui me la reconstruirez et me la rembourserez. Ça ne se dit jamais dans une prestation d'hommage dans le bassin parisien ou dans le reste des provinces françaises. Et ce geste de l'hommage lui-même, le seigneur est à genoux devant son seigneur, le vassal est à genoux devant son seigneur, il fait recopier dans le texte tous les hommages de ses prédécesseurs. C'est ainsi que le seigneur de Gramont, le seigneur de Lissarassu, le seigneur de Baïgori, le seigneur de Moléon-Rada, vous voyez ceux de la province d'Outreport et ceux du sud, les Medrano, les Sartaguda, les Montagut, les Rada, donc prêtent hommage à Philippe et Jeanne et alignent les conveniencias que les rois acceptent parfaitement. On leur a dit que c'était comme ça, et bien faisons à la Navarraise, ça ne dérange personne, et l'intérêt pour les rois est d'avoir des serviteurs militaires à leur côté. Et le roi dit bien, une fois encore, qu'il n'acceptera pas plus de cinq grands officiers étrangers à la Navarre, mais c'est la nomination d'une série de gouverneurs. Gouverneur, chaque fois que le roi est en France, il nomme un gouverneur. Il y a ainsi des gouverneurs français qui, d'ailleurs, ont été d'excellents gestionnaires, comme dans la politique antérieure. Mais tous les gouverneurs français ont des lieutenants qui sont des Navarrais, qui font la réalité du travail, et de toute façon, des procureurs, des prévôts, des interprètes, des administrateurs. Et à partir de ce XIVe siècle, avec la dynastie d'Évreux, beaucoup avec Philippe et Jeanne, mais beaucoup aussi avec leur fils Charles II et leur petit-fils Charles III, qui tiennent tout le XIVe et le début du XVe siècle, nous avons les créations de grands offices, d'alcaldesse de la cour, juge de la cour, notaire de la cour, un collège d'ailleurs de 4 alcaldes et de 4 notaires, des prévôts, des avocats, avocats du roi, avocats des nobles, avocats des paysans, avocats des infanzones, etc. Nous avons des merinos qui tiennent une meridad, c'est-à-dire, c'est votre carte d'ailleurs, le découpage administratif de la Navarre, avec des gestionnaires qui doivent être juges et collecteurs, un peu comme les sénéchaux et les baillis du royaume de France, des bailles à la tête des villes, des alcaldes aussi qui sont leurs aides représentant le gouvernement municipal, mais tenant la justice en accord avec le bail, puis des receveurs, des collecteurs, des gestionnaires des finances, voilà. Et ceci alors, en introduisant progressivement, c'est assez délicat au temps des premiers Évreux. Philippe et Jeanne nomment surtout des Normands pour gérer leur royaume. Donc, beaucoup de gens de la région d'Évreux ou du bassin parisien qui viennent en tenant les offices de trésorier et autres, bon, mais qui tiennent ce gouvernement. Mais très vite, Charles II et Charles III ont nommé massivement des Navarrais, des Navarrais, des Navarrais. On peut dire qu'à partir des années 1370, 1380 jusque vers 1430, la Navarre est gérée chez les petits comme chez les grands, donc officiers et responsables uniquement ou quasi uniquement par des Navarrais. Et quand par hasard ce sont encore des Normands, en particulier Guillaume le Sauterel, entre Philippe d'Évreux et la jeunesse de Charles II, Guillaume Auvre, Guillaume Plantrose, qui sont tous de Mortain, du Cotentin et autres, ils se marient en Navarre, ils font souche en Navarre, ils entrent dans les familles navarraises, et à la deuxième et à la troisième génération, même si on garde le patronyme Sauterel, Auvre ou Plantrose, ce sont des Navarrais qui sont à la tête des villes, qui sont dans l'aristocratie économique et politique de la Navarre et qui ont fait souche en Navarre. Sancha le Sauterel, par exemple, en 1383 à Tudela, ou Mathieu, son père, qui est aussi donc s'appelant Sauterel, mais absolument donc gérant la Navarre. Et ceci pour les petits offices comme pour les grands. La politique des rois, alors, il faut la brosser en quelques phrases. La politique des rois est tout aussi internationale. Philippe d'Évreux s'est parfaitement entendu avec les Aragonais et les Castillans, qui voulaient faire la guerre à la Navarre et qui voulaient croquer la Navarre. Il a échangé des châteaux, il a échangé des alliances, des accords de bon voisinage et surtout, en 1343, il a participé à une croisade en Andalousie qui a été proclamée par le roi de Castille, Alphonse XI, Alphonse XI le justicier. Il fallait lutter contre une invasion encore de Marocains, les Mérinides, et le vicomte de Béarn, Gaston II, et Philippe de Navarre, côte à côte, se sont joints aux armées de Alphonse XI. Mais Gaston II de Béarn est mort de fièvre à Séville et Philippe de Navarre est mort également de fièvre à Jerez de la Frontera. Laissant le royaume de Navarre à un enfant, enfin un jeune homme, c'est encore un enfant, en 1343. Il est né en 1332 à Charles, qui va devenir Charles II de Navarre, puisqu'il y avait eu un Charles IV le Bel qui était Charles Ier de Navarre, donc Charles II. Charles II qui n'a que 11 ans à la mort de son père, mais qui doit rester sous le gouvernement de sa mère, qui est la reine légitime, Jeanne donc d'Évreux-Navarre, et celle-ci meurt en 1349, dans le château du comté d'Évreux, le château de Bréval. C'est le moment de l'épidémie de la Grande Peste, et un peu comme les autres, donc la reine est morte à ce moment-là. Charles, à 18 ou 19 ans, se trouve à la tête du gouvernement de la Navarre. Il était le fils donc de Philippe et de Jeanne, sachant très bien que sa mère Jeanne, enfant, avait été écartée du trône de France pour laisser la place à l'oncle Philippe, puis à l'oncle Charles, puis au cousin Philippe VI de Valois. Et on lui avait donné la Navarre quasi en compensation, mais enfin c'était son légitime héritage. Charles II, pendant au moins 10 ans, si ce n'est plus, a constamment revendiqué des droits en France, des titres de grands officiers dans la couronne de France, la possession de la Bourgogne, soi-disant, qu'il aurait dû avoir par sa mère et par sa grand-mère, puisque Jeanne était la fille de Marguerite de Bourgogne, la femme de Louis X le Hutin. La Bourgogne à Jeanne d'Évreux, mais enfin bon, c'est un argument de soulèvement pour Charles II. Charles II aurait voulu avoir plus de terres dans le comté d'Évreux, il aurait voulu surtout être connétable du royaume de France, et il a fait assassiner un compétiteur connétable du roi de France. Il a soulevé contre le roi de France, Jean de Lebon, son beau-frère, car il a épousé une fille de Jean de Lebon, qui s'appelle également Jeanne, Jeanne de Valois. Il a soulevé son beau-frère qui va devenir le roi Charles V de France, et c'est ainsi que le roi de France l'a mis en prison. Finalement, il s'est sauvé de la prison avec l'aide de chevaliers de Picardie, avec des amis. Il est allé à Paris au moment où Paris se soulevait contre le dauphin Charles et contre le roi d'Angleterre, qui lui-même était prisonnier en Angleterre après la bataille de Poitiers. C'était le désastre de 1356. Charles de Denavar en a profité. Il est allé parler à Paris, aux Parisiens, en disant que sa mère eût été homme, eût été roi de France, évidemment. Bon, mais c'est ainsi qu'il tenait de haut ses arguments pour avoir un petit peu plus de terre. Enfin donc, le roi soulevait constamment contre le gouvernement de France et constamment battu, et il a perdu une bataille terrible qui a été gagnée par du Guesclin en 1364, la bataille de Cocherelle, où il était aidé d'ailleurs par le captal de Buch, qui était un grand officier et un grand noble de la région de Bordeaux, et ceci affilié à la famille de Béarn par un cousinage lointain. Il s'est beaucoup allié, puis beaucoup opposé au vicomte de Béarn, qui est alors un vicomte triomphant, qui est Gaston Troisphébus, qui lui-même avait sa politique très internationale aussi et très marquée sur le terrain, et qui lui-même a été victorieux du comte d'Armagnac, victorieux de tous les côtés. Ils ne se sont plus entendus à partir de 1362. Phébus aurait tué son fils sur les conseils de Charles de Navarre, on n'en sait rien. Il a renvoyé sa femme, qui était la sœur de Charles II, qui était la princesse Agnès de Navarre. Donc rien ne va plus entre le Béarn et la Navarre. Il faut attendre plusieurs générations pour que les relations reprennent. Puis Charles II s'est opposé à la Castille, il a été battu. Il n'a soutenu que des causes perdues. C'est un roi très intéressant pour la Navarre, mais dans la vie internationale, il est allé de maladresse en maladresse. Il s'est opposé à la Castille, il a été battu par la Castille. Il s'est opposé à l'Aragon, il a été battu par l'Aragon. Il a soutenu un prétendant au Portugal en y envoyant son fils Charles, qui va lui succéder. Ils ont été battus. Il a voulu s'allier à l'Angleterre. Ça a été pour lui l'argument pour le mettre en prison. Enfin, donc, il meurt le 1er janvier 1387. Après une vie internationale, vous voyez, très sujette à caution, mais en tout cas très réelle. Voilà, avec le mauvais côté des choses. Et Charles III, au contraire, dit le noble, 1387 à 1425, qui épouse une fille du roi de Castille, Léonore de Trastamare, et qui se trouve donc à la tête de ce royaume de Navarre, est au contraire allié de tout le monde. Il a voulu la paix, il a voulu le rassemblement, il a voulu la concorde avec tout le monde. Il a voulu surtout la concorde aussi vis-à-vis de l'Église. C'est un trait qui est beaucoup moins connu que ces alliances internationales pro-aragonaise, pro-castillane, pro-française, que réussit parfaitement Charles III le Noble. Il a voulu dans l'Église, car en 1378 se situe ce qu'on a appelé le grand schisme d'Occident. Les cardinaux, malmenés par les Romains, parce que depuis 70 ans, les papes vivaient à Avignon, les papes légitimes, les vrais papes, vivaient à Avignon, mais ne vivaient pas à Rome, alors que les papes étaient tout de même évêques de Rome. Le pape est fondamentalement évêque de Rome. Donc les Romains bousculent le conclave et font nommer l'archevêque de Bari, qui ne plaît à personne, qui est violent et qui n'a pas de qualité, et qui prend le nom de Urbain VI. Les cardinaux se réfugient un petit peu plus loin et nomment un pape qui leur plaît beaucoup mieux, qui est Robert de Genève, qui est d'ailleurs affilié à la famille de France, qui est un homme très calme et très diplomate, qui prend le nom de Clément VII. C'est parfait, mais il y a deux papes qui se disent aussi légitimes l'un que l'autre. Le pape de Rome est soutenu par la majorité des Italiens, pas par tous, donc les Italiens et par l'Empire. Le pape de Genève qui se réinstalle à Avignon et soutenue par la reine de Naples, qui est Jeanne d'Anjou, qui évidemment est de famille française, donc qui suit la politique française, et le royaume de France. Que vont faire les Espagnols ? Ils gardent la neutralité quelque temps. Charles II, c'était en 1378, c'était encore Charles II. Charles II dit « Je n'écoute personne ». J'écoute mon évêque de Pamplune, puisqu'il y a deux papes, ils sont donc faux tous les deux, neutres. Le roi de Castille, neutre. Le roi d'Aragon, neutre. Le roi de Portugal, neutre. Puis, très vite, évolution dans les royaumes espagnols. Le roi d'Aragon va surtout soutenir Clément VII et surtout le successeur de Clément VII, qui, en 1394, est un évêque aragonais, qui est Pedro de Luna, qui venait de famille noble catalane et aragonaise, et c'est Pedro de Luna, Benoît XIII, qui est le pape choisi par les Aragonais. Les Navarrais aussi, les Navarrais, surtout de Charles III, 1394, mais il y eut constamment des ambassades envoyées par Charles III, passant par l'Aragon, qui était de même politique, pour soutenir Benoît XIII, en Avignon, et l'évêque de Pamplune, Martin de Salba, et un très fidèle de Benoît XIII, qui était Pedro de Luna, qui avait d'ailleurs participé au couronnement et au sacre en 1390 de Charles III. Charles III lui devait sa couronne, en quelque sorte, entre autres. Et donc, Martin de Salba de Pamplune, est un fidèle de Benoît XIII, et Martin de Salba meurt en 1403, à Salon de Provence, car il avait suivi en exil, donc à Avignon d'abord, et en Provence, cet évêque, ce pape, donc, qui était ainsi reconnu. Puis, évidemment, on choisit les papes, et enfin, un grand concile œcuménique, le concile de Constance, fait démettre les divers papes qui se trouvaient là, car il y en a eu trois à un moment donné, non seulement deux, mais trois. On croyait qu'en nommant un troisième, les deux autres démissionneraient. Pas du tout. Ils sont restés en place tous les trois. Et c'est ainsi que, enfin, le 11 novembre 1417, est élu Odone Colonna, qui prend le nom de Martin V et qui rétablit l'unité dans l'Église. Pas tout de suite, pas très longtemps, mais voilà une réussite. Vous voyez le poids d'ambassade et démographique et officiel de cette Navarre qui ainsi, diplomatique, je veux dire, soutient le Benoît XIII contre le pape romain qui ne plaît pas, et puis donc qui choisit le pape élu par le Concile de Constance. Enfin, Philippe et Jeanne. Charles II et Charles III tiennent une cour tout à fait remarquable qui elle-même est tout à fait aussi internationale dans leur Navarre. Dans le château d'Olité surtout, qui était une bourgade jusque-là et qui devient véritable château résidence royale à partir de Philippe d'Evreux, mais surtout Charles II et Charles III. Donc ils nomment un grand maître des travaux du roi qui est un maure de Tudela, mais originaire de Saragosse, Salema Saragossano, donc Suleiman le Saragossan, si vous voulez, si nous traduisons, mais laissons-lui sa graphie originale. Grand maître des travaux du roi, qui a d'ailleurs des aides, maure de Tudela aussi, avec les finances juives de Samuel Amarillo, Yehuda Ben Menir, Nathan del Gabay, les grands juifs de Tudela, qui paient une très grande partie des avances pour la construction de ce château d'Olité. Et c'est ainsi que cette cour a des danseurs de cordes qui viennent de Bayonne, des jongleurs qui viennent d'Aragon ou de Béarn, Des matadors, car on offre des corridas dès qu'il y a une fête à célébrer, et en particulier des rencontres internationales. Lorsque ce sont des Français, on leur offre une corrida, car ce n'est pas à Paris qu'on voit les corridas. Lorsque ce sont des Espagnols qui viennent à la cour de Navarre, on leur offre un tournoi à la façon normande et parisienne. Donc, jeu de fête internationale ainsi, vous voyez. Et des maîtres lissiers, maîtres tapissiers qui viennent d'Arras et de Tournai. Je vais terminer bientôt. Une présence internationale qui est tout à fait remarquable dans cette cour, avec des visites des grands souverains étrangers. Le roi Lusignan, Henri de Lusignan, Lionel de Lusignan, qui était roi d'Arménie, qui avait été pris par les Turcs et qui avait été libéré par une collecte internationale à laquelle avait participé le roi de Navarre, est venu en 384 à Pamplune remercier personnellement Charles II, qui lui a offert une nef de table, donc un joyau en forme de vaisseau rempli de pièces d'or pour offrir donc à ce roi d'Arménie. Mais il faut évidemment conclure sur la fin de ce royaume de Navarre. 1425, Charles III meurt, ne laissant que des filles. L'aînée Blanche est l'épouse d'un prince de la maison d'Aragon. Ils ont eu en 1421 un fils, Carlos, et il était entendu que Carlos aurait l'héritage de la Navarre par sa mère, reine de Navarre, Blanche, qui est donc reine de Navarre en 1425. En 1423, on avait reconnu par des Cortés cet héritage, avec le titre de prince de Viana, mais Carlos de Viana grandissant, sa mère mourant, 1441, il y a une erreur dans votre généalogie, on a marqué 1451, c'est 1441, c'est pas grave, mais il faut savoir. Donc, mourant en 1441, Carlos n'a pas reçu cet héritage. Son père, Jean d'Aragon, qui attendait le gouvernement de l'Aragon, car son frère, Alphonse V, le magnanime, n'avait pas d'héritier, et on savait que Jean, son frère, serait roi d'Aragon. Jean d'Aragon voulait être également roi de Navarre, et laisser en Navarre quelqu'un qui suivrait sa politique. Carlos s'était déjà soulevé contre son père, qui ne voulait pas d'une politique indépendante, et il y eut, à partir des années 1450, déjà 1445, jusqu'à l'extrême fin du siècle, une guerre civile en Navarre pour Carlos ou pour Jean d'Aragon, qui devient roi d'Aragon en 1458, les Beaumont qui soutiennent Carlos ou les Beamontes, donc Carlos, et les Gramont ou Agramontes qui soutiennent Jean d'Aragon. Guerre civile, guerre de château à château, ruine totale. La Castille en profite pour conquérir la région de Viana, ce qu'elle cherchait depuis longtemps, jusqu'à Estella. La Navarre résiste comme elle peut, mais Jean d'Aragon lègue ses droits au trône à sa fille Léonore. Carlos est mort en exil à Barcelone en 1461, en ayant essayé toutes sortes d'alliances contre son père. Là encore, une politique internationale très maladroite. Et c'est ainsi que Léonore reçoit l'héritage de la Navarre et le passe à son mari, qui est Gaston de Foix-Grailly, de Foix-Béarn, comte de Foix et vicomte de Béarn, et possessionné donc très largement grâce à sa femme. Leur fils Gaston est mort en 1470, mais il avait épousé la sœur de Louis XI, Madeleine de France, très excellente régente, et ils ont eu deux enfants, François Phébus et Catherine. François Phébus, en 1473, est roi de Navarre. C'est un enfant qui a 5 ans lorsqu'il hérite du royaume et qui meurt à 15 ans, sans doute empoisonné, mais bon, point d'interrogation. C'est donc sa sœur Catherine qui est reine de Navarre et également qui a tout l'héritage des Foix-Grailly, Foix-Béarn. Donc, roi de Navarre, vicomtesse de Béarn, et comtesse de Foix. Le gouvernement de France en 1483, c'est l'ensemble de la régence pour le très jeune Charles VIII, car Louis XI meurt à ce moment-là, Anne de Beaujeu et Pierre de Beaujeu, Anne de France et Pierre de Beaujeu, Marie Catherine de Navarre et de Foix et de Béarn, un très grand seigneur de l'Aquitaine, fils d'ailleurs d'un fidèle de Louis XI. C'est la même politique française, politique de Louis XI, qui s'imprègne donc de la Navarre. Ainsi, on marie Catherine et Jean d'Albret, et Catherine et Jean d'Albret sont seigneurs d'Albret, comte de Foix, vicomte de Béarn, vivent beaucoup plus d'ailleurs à Foix et à Pau qu'à Pamplune, mais enfin ils y font quelques apparitions de temps en temps. Et c'est alors que, en 1512, la Castille de Ferdinand d'Aragon, Isabelle la catholique est morte en 1505, donc Ferdinand d'Aragon décide de conquérir toute cette partie de Navarre méridionale jusqu'à la ligne des Pyrénées, la terre de Navarre qui est ibérique, car lui-même à l'Aragon, à la Castille, on marie une enfant au roi de Portugal. C'est un très grand rassemblement. Depuis 1492, ils ont conquis Grenade et on est en train de chasser et les juifs et les musulmans. 1512, c'est la conquête de la Navarre, c'est la fin de la Navarre indépendante. Catherine et Jean ont eu juste le temps de se réfugier à Saint-Palais. La Navarre a encore été envahie dans cette partie du nord des Pyrénées. Le fils de Catherine et de Jean, Henri d'Albret, en 1521, a essayé de reconquérir la Navarre du côté espagnol, mais il a échoué à Noailles en 1521. Et c'est évidemment sa fille, Jeanne d'Albret, reine de Navarre, mais de quoi la Navarre? Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port, et puis c'est tout. Enfin donc, c'est un royaume quand même, un titre. C'est un titre, voilà. Reine Jeanne d'Albret transmet le royaume de Navarre à son mari, qui est Antoine de Bourbon. Antoine de Bourbon est le père de Henri de Navarre et de Foix et de Béarn et d'Albret et de Bourbon. Et c'est cet Henri, donc, de Navarre, etc., qui, en 1589, devient Henri IV, roi de France et de Navarre, encore une fois, titre qui avait été oublié, laissé de côté, depuis 1328, c'est-à-dire l'avènement des Évreux, qui était roi de Navarre, mais qui n'était plus roi de France. Vous connaissez désormais, j'ai beaucoup trop parlé, excusez-moi, toutes les arcanes de cette vie internationale de la Navarre. Quand vous irez au San Fermines, vous essaierez de détecter les influences aragonaises, les influences françaises, les influences béarnaises, les influences normandes, les influences parisiennes de cette Navarre que vous visiterez. Je vous remercie beaucoup.
Vous venez d'entendre la deuxième et dernière partie de la conférence intitulée « La Navarre au Moyen-Âge, un royaume au cœur des voies internationales » présentée par Béatrice Leroy, professeure honoraire à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui répondait à l'invitation de l'Université du Temps Libre de Bayonne.